Bonsoir. Le président de l'intersyndicale nationale du Congo a adressé samedi 30 avril dernier à Kinshasa un tableau sombre de la situation des travailleurs congolais du secteur tant public que privé. C'était à l'occasion de la journée internationale du travail placée sous le thème « Construire l'avenir avec un travail décent ». Guy Koukou a indiqué que la problématique du travail décent demeure une préoccupation majeure des travailleurs congolais qui bénéficient de salaires insignifiants qui ne reflètent pas la valeur du travail fourni. Quelle est la surface du tableau dressé par l'intersyndicale nationale du Congo? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 4 mai 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats le professeur Joseph Manzambi, expert coordonnateur auprès du vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Professeur Manzambi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Modeste Amédée Ndongala, premier coordonnateur adjoint de l'intersyndicale nationale du Congo et président de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC en sigle. Monsieur Ndongala, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et l'assistant Hervé Magaribi Léani, il est analyste indépendant. Monsieur Magaribi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrick Mombande de Kisangani dans la province de la Tchopo. Le gouvernement a fait des efforts appréciables ces dernières années, comme des légères augmentations salariales, la régularité dans la paix. Cependant, ces salaires restent modiques au regard des sommes colossaux que les dirigeants politiques s'octroient. Merci de nous ouvrir par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le monde a célébré le 1er mai dernier la Journée internationale du travail. À Kinshasa, la manifestation commémorant cette journée s'est déroulée samedi dernier sur le boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple, autour du thème « Construire l'avenir avec les travailleurs décents ». Elle a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Dans son discours de circonstance, Willy Makiachi est notamment revenu sur deux initiatives mises en place par le gouvernement en vue de répondre à la problématique du travail des jeunes. On l'écoute.
Il convient de mentionner à ce niveau la mise en œuvre du programme Emploi diplômé et du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi, comme des réponses idoines à la problématique de l'emploi des jeunes Congolais. Exécuté par l'Office national de l'emploi, ONEM, le programme Emploi diplômé vise l'amélioration des compétences professionnelles des 10 000 jeunes diplômés congolais pour une période de 4 ans, en raison de 2 500 bénéficiaires par an dans la ville-province de Kinshasa, dans le Congo central et dans l'ex-Katanga, financé pour cette première phase du projet par la Banque africaine de développement. Il importe aussi de faire état de l'ambitieux projet en cours d'exécution, visant à assurer l'autonomisation économique des femmes, dont la première phase s'apprête à recruter, prêt à former plus de 9 000 femmes par les programmes cadres de création d'emplois et de revenus, le procès, grâce également à un financement conséquent de la Banque africaine de développement.
Pour sa part, le Bon Syndical a brossé, comme à l'accoutumée, un tableau sombre de la situation des travailleurs congolais, tant du secteur public que privé. Selon l'Intersyndical National du Congo, le gouvernement a opté pour une politique des bas salaires à laquelle se sont greffées d'autres situations qui accentuent les conditions de précarité de la population, telles que la sous-traitance, le travail journalier pour des emplois pourtant permanents. On écoute Guy Koukou, président de l'Intersyndical National du Congo.
Dans notre pays, la problématique du travail décent demeure une préoccupation majeure. Les travailleurs congolais, les fonctionnaires et agents de l'État restent totalement laminés avec un salaire insignifiant qui ne reflète pas la valeur du travail fourni. Et malgré la bancarisation de la paie des fonctionnaires et agents de l'État, ceux-ci croupissent toujours dans la misère noire avec un salaire extraordinairement indécent et loin du minimum vital. Nous sommes donc dans un contexte où l'État congolais semble avoir opté pour une politique de bas salaires aujourd'hui, on peut constater que cette politique de bas salaires est venue se greffer d'autres situations telles que la sous-traitance, le travail journalier pour les emplois pourtant permanents, le phénomène des nouvelles unités, alors que l'État devait donner l'exemple aux autres employeurs dans le respect des traitements de ses citoyens.
C'est un dossier signé Innocent Olenga, professeur Joseph Manzambi. Je rappelle que vous êtes expert coordonnateur auprès du vice-premier ministre, ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Le mandat célébré le 1er mai dernier, la journée internationale du travail, placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Ce thème correspond-il aux réalités de la RDC?
Merci madame pour la parole. Est-ce que le thème correspond aux réalités de la RDC? Pour y répondre, il faudra qu'on puisse se référer aux indicateurs de travail décent. Le travail décent, le concept, a été utilisé dans ce contexte pour la première fois en 1999 par le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Et là, on dit que le travail décent ne concerne pas seulement les travailleurs du secteur formel, mais également ceux du secteur informel et ceux qui travaillent à leur propre compte. Et maintenant, l'OIT nous recommande, pour évaluer les conditions de travail, pour dire que le travail accompli se déroule dans des conditions décentes ou pas, eh bien, il y a 6 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'emploi. Le deuxième indicateur, c'est l'emploi rémunérateur. Le troisième indicateur, ce sont les conditions de travail. Le quatrième indicateur, c'est la sécurité sociale. Le cinquième indicateur, c'est les droits fondamentaux. Et le dernier indicateur, c'est le dialogue social.
Au regard de tous ces indicateurs, professeur Manzambi, est-ce que la RDC correspond, ce thème correspond aux réalités de la RDC?
Madame, je dirais que la RDC, comme tous les pays du monde, essaye de progresser dans l'amélioration des conditions de vie de leur population. En ce qui concerne les 6 indicateurs que je viens de citer, il y en a ceux que la RDC est en train d'accomplir, il y en a d'autres évidemment qui sont en souffrance. En ce qui concerne le premier indicateur que j'ai cité, à savoir l'emploi, on peut dire, Monsieur le Vice-Premier ministre l'a dit, il a donné un exemple de ce que le gouvernement est en train de faire depuis les débuts de cette année. Mais en ce qui concerne l'emploi, on constate qu'à partir de 2010, il y a une progression dans la création de nouveaux emplois.
Dans quel secteur?
Dans tous les secteurs confondus, si vous voulez que je vous donne des éléments. Donc dans tous les secteurs confondus, il y a un progrès en matière de création d'emplois. Et les progrès sont de l'ordre de plus ou moins 68%. Donc je peux, si vous le permettez, si nous avons tout le temps.
On n'a pas beaucoup de temps, hein, vous devez vous résumer.
Donc c'est pas parfait. Donc en ce qui concerne, par exemple, excusez-moi, j'ai prévu beaucoup d'éléments, mais que je dois résumer. En ce qui concerne, par exemple, les activités extractives, on est passé de 2010 à 2015 à une progression de création d'emplois de 64,4%, donc en 5 ans. En ce qui concerne les activités de fabrication, on est passé à une progression de 88,4% en 5 ans. En ce qui concerne la construction, on est passé à 306,3%. En ce qui concerne le commerce de gros et de détail, on est passé à 68,5% en 5 ans. En ce qui concerne le transport et entreposage, on est passé à 28,2% en 5 ans. En ce qui concerne les activités d'hébergement et de restauration, on est passé à 154,3% en 5 ans.
Ce n'est pas beaucoup, madame. C'est dans toutes les provinces?
C'est dans toutes les provinces, tout à fait. C'est dans toutes les provinces. Mais par rapport à la population active en République démocratique du Congo, c'est encore minime ce qui est en train d'être fait. Par contre, on constate qu'il y a un certain effort de point de vue objectif. L'effet en face de moi montre qu'il y a une certaine progression. Elle est modique, mais elle est là, la progression.
Alors, dans son discours de circonstance, Willy Makiachi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, est revenu sur les deux initiatives mises en place par le gouvernement en vue de répondre à la problématique des travail des jeunes. C'est le programme Emploi Jeune qui a été lancé au mois de février dernier. Où est-ce qu'on en est?
Le programme est déjà opérationnel. On a commencé à recruter les formateurs. Les formateurs sont donc en train d'être recrutés. Après cette formation, le programme consiste en quoi au fait? Tous les anciens diplômés, les nouveaux diplômés qui sortent donc des universités et des écoles n'ont pas d'expérience professionnelle. Et lorsqu'ils cherchent de l'emploi, ils ne sont pas recrutés à cause du manque d'expérience. Et par cette expérience PED, dans emploi de nouveaux diplômés, eh bien, l'État va permettre aux jeunes demandeurs d'emploi, qui sont majoritaires d'ailleurs dans notre pays, va leur permettre de rentrer en entreprise et de pouvoir acquérir une expérience. Mais lorsqu'ils rentrent en entreprise, les entreprises ne prennent pas en charge ces stagiaires. C'est plutôt l'État, pour l'instant, via la Banque africaine de développement, qui soutient ces jeunes diplômés. Et donc, ça ne coûte rien, plus ou moins, aux entreprises. Ça profite à la population, aux jeunes qui vont acquérir de l'expérience. Certains d'entre eux vont signer de contrats à durée déterminée ou indéterminée au sein des entreprises. Et d'autres, qui ne seront pas retenus, mais ils resteront dans les bases de données et de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, et des entreprises en question, si bien que demain après-demain, lorsque les mêmes entreprises ou dans le même secteur on aura besoin de travailleurs, eh bien ces jeunes pourront se retrouver dans les entreprises.
Alors professeur, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement a créé des emplois, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, c'est maudit, mais le gouvernement fait quelque chose, vous créez des emplois, mais entre-temps, ceux qui sont déjà ceux qui travaillent déjà, c'est plein de mauvaises conditions, des salaires modiques qu'ils reçoivent. Comment vous allez payer ces gens que vous avez, pour qui vous avez trouvé du travail?
Merci madame. Je crois que la première précision, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois. Ce sont les investisseurs et qui créent l'emploi. Le gouvernement crée l'emploi au niveau de la fonction publique. Mais le gouvernement met en place des conditions qui sont régulées par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale. Le gouvernement met donc en place des conditions qui permettent aux investisseurs de pouvoir créer l'emploi. C'est vrai que les conditions de travail, par rapport aux indicateurs dont nous avons parlé tout à l'heure, le syndicat se plaint. Ils ont raison de le faire. Parce que quand vous prenez les pays développés où les conditions de travail sont excellentes, je prends l'exemple de la France par exemple, vous allez voir que le budget de la protection sociale de la France, c'est plus de 400 milliards d'euros par an, et le budget de la France en soi, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros, mais chez nous, l'assiette est telle que le budget national est de plus ou moins 8 milliards de dollars. Donc, dans ces conditions où le citoyen... Parce que d'où vient l'argent de l'État, madame? L'argent de l'État vient des contribuables.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Modeste Amédée Ndongala, premier coordonnateur adjoint de l'intersyndicale nationale du Congo et président de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC en sigle. Comment vous analysez le tableau peint ou dressé par M. Koukou, qui est le coordonnateur de l'intersyndicale ou le président de l'intersyndicale nationale du Congo?
Bien. Merci madame, mais ce travail, nous l'avons fait ensemble. C'est un travail de l'intersyndicale nationale du Congo. Et quel commentaire puis-je faire à ce propos? Que juste de confirmer ce qui a été dit dans ce message, que d'une manière générale, le travail s'est fait, c'est vrai, mais les conditions dans lesquelles ce travail s'exécute ne sont pas bonnes. Et nous avons à nos côtés ce que nous appelons les contrôleurs du travail, qui devaient normalement veiller à ce que la législation en matière de santé et sécurité soit respectée. Mais il y a un certain nombre d'insuffisances qui se présentent, qui font que finalement ce travail n'est pas fait, il devait être fait. En conséquence, si nous n'avons pas des travailleurs avertis, si nous n'avons pas des employeurs qui veulent bien appliquer la loi, ben, les conditions ne peuvent que se dégrader. Donc, c'est ce que nous sommes en train de constater. Alors, nous, en tant que syndicats, nous faisons aussi un effort pour que nous puissions apprendre à nos membres comment ils doivent se comporter là où ils travaillent. Quels sont les risques qu'il faut éviter? Mais il faut reconnaître que ce n'est pas de notre responsabilité première. Nous, ce que nous faisons, c'est un effort d'éducation pour que les travailleurs ne soient pas victimes, parce que s'ils sont victimes, c'est nous, syndicats, qui payons aussi.
Alors, vous vous plaignez de salaires modiques, que insignifiants, qui ne reflètent pas la valeur du travail fourni, monsieur Modeste Ndongala. Le gouvernement n'a pas amélioré les salaires des fonctionnaires ces deux dernières années?
Non, il faut dire qu'en matière de salaire, le problème est beaucoup plus profond que ça. Ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui, c'est une situation qui date de très longtemps. Très longtemps. Au cours de laquelle les efforts n'avaient pas été faits pour que nous puissions avoir des salaires qui répondent aux besoins vitaux des travailleurs. Il y a une certaine époque, quand nous étions petits, nous autres, nous n'avions pas de problème. Nous n'avions pas de problème de repas. On avait 3 repas par jour. Parce que la politique salariale de l'époque était conçue de telle manière que le travailleur puisse disposer du minimum nécessaire pour faire face au minimum vital. Mais au fur et à mesure que nous avons évolué, tous ces éléments-là sont tombés. Je me rappelle encore d'une chanson de Rochereau, il disait... je ne sais pas, moi si, comment s'appelle cette chanson-là? Oyebi, la vie est comme italo, awa namboka kongo, c'est un namboka lipopo, awa koba kitisi ngambongo, et paï na saka. C'était en 67, 66, quelque chose comme ça. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous voyez que la situation commence à se dégrader. Et elle est allée comme ça, de fil en aiguille, tous les efforts qui ont été faits pour qu'on puisse se rattraper, tous ces efforts n'ont pas donné, parce que en fait, quelque part, il nous a manqué une véritable politique salariale qui devait prendre en compte tous les différents aspects de la rémunération du travailleur pour que cette rémunération réponde à ses besoins vitaux. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous devons nous mettre tous autour d'une table pour dire ça ne va pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que ça aille?
Mais est-ce que vous ne l'avez jamais fait? Vous ne vous êtes jamais retrouvé autour d'une table pour discuter ou parler de ce problème?
Une session du Conseil national du travail qui s'est tenue l'année dernière, on devait justement parler de cette question, non pas en termes de chiffres, mais en termes de processus à mettre en œuvre pour que nous puissions avancer. Mais les travaux n'ont pas eu lieu, les travaux n'ont pas avancé, quelques réunions, puis ça s'est arrêté. Donc ce qui revient à dire que quelque part, il y a encore cette défaillance-là. Tout au moins au niveau de l'intersyndicale, nous avons nos équipes de techniciens qui sont en train de travailler pour pouvoir réunir les éléments qui vont nous permettre demain, en nous retrouvant autour d'une table, de dire voilà ce que nous amenons comme élément. Ça, au niveau de l'intersyndicale, on est très avancé.
Et on a l'impression que chaque 1er mai, c'est le même discours qui revient, salaire modique, conditions de travail médiocres.
Mais oui, c'est ça notre rôle à nous syndicalistes. Nous, quand ça ne va pas, nous devons dire que ça ne va pas. Et quand nous le disons, nous ne nous contentons pas seulement d'une situation de revendiquer pour revendiquer. Non, nous réclamons et nous faisons des propositions pour que les choses évoluent. Parce que nous ne pouvons pas accepter que nous puissions, aucun d'entre nous, que ce soit vous madame, que ce soit le professeur qui parle, que n'importe qui ne veut accepter de vivre dans des conditions qui ne lui permettent pas de répondre à ses besoins vitaux. Personne. Alors nous, quand nous voyons que ça ne va pas, nous revenons. Nous reviendrons toujours, 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 tant que nous n'avons pas encore trouvé de solution.
Merci Monsieur Ndongala, assistant Hervé Magaribi Léani. Vous êtes analyste indépendant. Quelle analyse vous faites vous de cette situation des fonctionnaires qui reviennent chaque année avec les mêmes problèmes?
Merci beaucoup Madame. J'ai saisi l'occasion pour saluer toutes nos auditrices et tous nos auditeurs en fait qui sont à travers les Congos et plus particulièrement le jeune congolais qui en ces moments-ci sont dans une situation très chaotique à ce qui concerne l'emploi dans ce pays. Mais c'est aussi une occasion pour moi pour remercier le professeur par rapport à ce qu'il a dit. Il représente ici la vice-primature au travail et à la prévention sociale et M. Amédée aussi qui est de l'intersyndicale. Madame, la première chose que je vais dire dans ce débat, c'est que il faut que nous comprenions qu'est-ce que signifie l'emploi dans ces pays. C'est une matière complètement galvaudée. Le mot emploi a perdu son sens. Aujourd'hui, c'est les gens se débrouillent, en fait, la diabordise. Les gens se débrouillent pour pouvoir survivre au quotidien. Et pour cela, je vais d'abord partir avec une simple analyse. Durant la dernière décennie, entre 2006 et 2016, aujourd'hui, si je fais l'état de lieu de toutes les réclamations, de toutes les revendications que les fonctionnaires ont eues depuis 2006 jusqu'à présent, je trouve comme si le discours n'a pas complètement changé. C'est-à-dire, le fonctionnaire reste toujours réclameur des bons salaires, des bonnes conditions de travail. Le jeune reste toujours en train de demander qu'il y ait de la création d'emplois. Je suis très content que le professeur se soit...
Et le gouvernement qui promet d'améliorer les conditions.
Ouais, d'abord, je voudrais remercier le professeur parce qu'il a pu rectifier une chose en disant d'abord que non, le gouvernement est en train de créer de l'emploi. Et plus tard, il est revenu, il a dit non, ce n'est pas le gouvernement qui crée de l'emploi, ce sont les investisseurs. Je remercie beaucoup cette honnêteté parce que, à ce qui concerne l'emploi, c'est-à-dire au sein de la fonction publique, combien de jeunes diplômés sont recrutés par l'État et qui sont mis dans de bonnes conditions, d'une part et d'autre part. Celles-là qui sont en train de travailler au sein de l'administration publique, quelles sont les conditions qu'ils bénéficient? Aujourd'hui, on parle de la bancarisation comme l'amélioration des conditions de travail. Il n'en est pas question, ou des conditions rémunératoires, il n'en est pas question. Pourquoi? Depuis la nuit des temps, on sait très bien que les salaires, madame, doivent être repris sur un bulletin de paie. Reprenons le rubrique importante de la vie du travailleur, c'est-à-dire son salaire de base, les allocations familiales, les indemnités. Et si la personne est détentrice, soit d'une pension, c'est-à-dire que toutes ces rubriques doivent se retrouver sur son bulletin de paie. En fait, qu'ils connaissent qu'à la fin du mois, voici l'argent qui m'a été donné par mon employeur et sur base duquel je suis capable de programmer ma vie, mon avenir. Aujourd'hui, on paye les gens à la banque. C'est un comptable brut et global. Comprenant que les rubriques, on vous paye les heures supplémentaires, on vous paye les heures de travail. Finalement, il n'y a pas clarté. Il n'y a pas honnêteté.
Et donc, vous pensez qu'en plus de la bancarisation, les fonctionnaires devraient recevoir leur bulletin de paie, hein?
Absolument, madame. C'est d'abord bien décrit. C'est une réglementation nationale. Quand vous lisez les droits du travail congolais, on dit très bien que le salaire doit reprendre toutes les rubriques normales sur lesquelles doivent s'établir les différentes conditions. C'est-à-dire que j'ai parlé des allocations familiales, le logement. Tout de suite là, le monsieur Amédée de l'intersyndicale parlait qu'il n'avait pas de problème quand lui grandissait parce qu'il y avait une bonne politique. C'est-à-dire, sur le bulletin de paie, il y avait même la cantine pour les travailleurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, sur ce plan, je pense très bien que je suis congolais, je dois être réaliste, je compte que demain, il y ait un bon avenir dans mon pays, mais je pense que la responsabilité publique fait défaut dans ce pays. Ça, c'est d'abord un premier constat. Deuxièmement, je vais parler un peu de ce que le vice-premier ministre a évoqué. L'emploi diplômé, qui est une initiative aujourd'hui financée par la Banque africaine de développement. C'est encore bien. Mais madame, vous ne devez pas oublier qu'aujourd'hui, il se pose un grand problème à ce qui concerne l'initiative de l'École nationale d'administration et l'administration publique. Et je me pose la question, est-ce les mêmes programmes aujourd'hui que le ministère du Travail et Prévention sociale met en place? Quelle corrélation, quel équilibre qu'il y a entre l'ENA et ces programmes? Dès que ces jeunes seront recrutés, parce qu'on dit qu'on est à la phase du recrutement des formateurs, mais on doit recruter les formateurs au ministère, à la vice-primature, au travail et à la prévention sociale, on recrute des jeunes à l'ENA et demain on va les mettre où? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que vous ne vous rendez pas compte réellement qu'il y a un certain déséquilibre organisationnel en matière de recrutement de jeunes pour l'emploi? Donc, à mon humble avis, le tableau sombre qu'a dépeint l'intersyndicale congolaise est un tableau très éloquent et très évident. Je ne le contredis pas, mais je dis tout simplement que le gouvernement doit cesser de donner des discours alchimiques qui tentent à faire endormir les gens, il doit prendre des responsabilités.
Merci Hervé Magari, on vous garde encore dans cette émission. Le professeur va essayer de répondre à vos préoccupations, mais avant cela, professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katang. Effectivement, le tableau de l'emploi en RDC est sombre, parce qu'il n'y a pas une bonne politique claire d'emploi que veut le gouvernement congolais. Si le gouvernement est incapable de garantir des bonnes conditions de travail de ses propres travailleurs qui sont sous-payés et moins considérés, est-ce qu'il aura le temps et le courage de faire le suivi pour ceux qui sont dans le secteur privé? J'en doute, car le gouvernement tâtonne sur le vrai statistique des travailleurs tant dans le secteur privé que public. Je pense que l'intersyndicale a raison de dresser ce tableau sombre où le gouvernement a complètement failli dans le secteur d'emploi, qui est l'un des cinq chantiers du président Kabila.
Réaction, professeur.
Merci, madame, pour la parole. Par rapport à la récente réaction de mon compatriote qui se trouve à Lubumbashi, j'aimerais apaiser son cœur parce que le Conseil des ministres de janvier dernier avait adopté le document de politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc la politique existe maintenant. À lui, Monsieur Patrick, à moi et à nous tous, de nous mettre à l'œuvre dans le cadre de l'application de cette loi. En ce qui concerne le...
Mais c'est le gouvernement qui doit faire appliquer cette loi.
Bien sûr, bien sûr. On fait appliquer, mais madame, je ne sais pas, si vous prenez le poids lourd à 17h, vous partez de la ville vers Kingabwa, vous trouverez des chauffeurs qui sont en train de déborder la ligne de démarcation. La loi est là, mais il faut la conscience de chacun pour appliquer la loi. Sinon, il faudra pour 60 millions de Congolais, 60 millions de policiers pour les suivre derrière. Donc la loi, les lois sont en train d'être mises en place avec les différentes réformes. À chacun de nous de les mettre en pratique et là où elles ne sont pas appliquées, que nous puissions les dénoncer. Nous devrions les dénoncer à qui de droit. Donc je pense, M. Patrick a raison, les conditions de travail ne sont pas encore réunies par rapport aux indicateurs dont on a parlé tout à l'heure. Mais il ne faut pas non plus oublier, madame, vous êtes noire, moi je suis noir, et mon frère est noir. S'il doit vous épouser, vous aurez un enfant noir. Mais si vous avez un enfant métissé, ça serait suspect, ça ne serait pas son enfant. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Le pays n'a pas assez de ressources. Les ressources du pays viennent, je l'ai dit tout à l'heure, des contribuables. Il faudra que demain, pour le travail que vous faites, que vous puissiez payer les impôts, que vous puissiez payer les taxes, ainsi de suite, que ce soit pour tout le monde. L'habitation que vous occupez, vous devez payer des taxes, vous devez payer l'impôt. Combien de personnes payent? Et quand vous prenez la SNEL, combien de personnes utilisent le courant, l'électricité de façon frauduleuse? Quand vous prenez la régie des eaux, combien de personnes volent de l'eau de la régie des eaux? Et tout ça, ça fait un manque à gagner à l'État. Madame, moi, je fais 25...
Et ça se répercute sur les salaires des fonctionnaires.
Moi, je suis venu de la Belgique quand le vice-premier ministre m'a fait venir. Mais nous voyons ce qui se passe ailleurs. L'argent du gouvernement ne vient pas, c'est pas Monsieur le Premier ministre Matata qui sortira l'argent de ses poches. Ce n'est pas Monsieur le Président Kabila. C'est vous et moi qui devons contribuer. Le Président Hollande, madame, depuis qu'il est au pouvoir, il a augmenté les impôts en France de 90 milliards. 90 milliards d'euros depuis qu'il est au pouvoir. Mais il y en avait déjà combien avec les gouvernements précédents? Mais regardez les impôts en RDC, qu'est-ce que ça représente? Donc, lorsque nous demandons...
Mais pourquoi, selon vous, les gens ne payent pas ces impôts, ces taxes?
Il y a une publication que je pourrais vous donner à l'issue de l'émission. Il y a des concepts qui sont nouveaux pour nous, les Africains, et pour nous, les Congolais. Il y a des concepts qui sont nouveaux. Quand vous allez chez ma grande sœur à Massina, quartier 1, vous lui demandez de payer les impôts pour sa parcelle, elle va vous dire, mais c'est ma maison, pourquoi voulez-vous que je paye à l'État? Donc c'est des concepts qui nous ont été apportés, que nous n'avons pas encore intériorisés. Regardez peut-être que vos collègues des radios Capi, ils payent les assurances des voitures. Sortez dans la rue, madame, voyez combien
de
voitures...
Mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens pensent que les taxes ou les impôts qu'ils payent vont plutôt dans les poches des individus au lieu
oui, tout
de
à
servir
fait.
À la
vous
République?
Vous avez raison, madame, vous avez raison. C'est parce que beaucoup de gens ont des preuves Comme quoi, le fonctionnaire, monsieur le coordinateur du syndicat l'a dit tout à l'heure, le fonctionnaire, au lieu de faire son travail, il fait le contraire. Et ça décourage le contribuable qui devrait apporter l'argent. Et monsieur le syndicaliste l'a dit tout à l'heure, mais dans ce cas-là aussi, il faudra le dénoncer. Madame, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par les dénonciations.
Alors, vous allez répondre rapidement à la préoccupation de M. Mangaribi qui demandait ENA, le programme ENA, le programme emploi jeune. Est-ce que c'est le même programme ou c'est deux programmes différents? Rapidement. Hein.
Tout à fait, madame. Je crois que c'est deux choses différentes. L'ENA, vous savez, les pays comme la France, tous les grands présidents qui passent, ils sont venus de l'ENA. Donc l'ENA, c'est une grande école de l'administration publique. Donc le gouvernement, les ministres de la fonction publique sont en train d'essayer de mettre en place, de renouveler, si vous voulez, le personnel en formant des énarques. Mais maintenant, lorsque la Banque africaine vient financer l'autonomisation des femmes dans la société civile, ils ne passent pas par la fonction publique. Il s'agit des citoyens, il ne s'agit pas des fonctionnaires. Les énarques concernent le personnel de l'administration publique. Et dans la société, la grande société qui reste, chacun a ses responsabilités. Et donc, ceux qu'on forme, et ce n'est pas le ministère de l'Emploi qui forme ces gens-là, ce sont les exécuteurs des contrats. C'est l'ONEM, c'est le PROCER, qui sont des instruments d'exécution de ces politiques qui forment
les gens. Merci, professeur Manzambi. Modeste Ndongala, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mouenéditou.
De Mouenéditou, province de Lomami. Le discours du président de l'intersyndicale de la RDC est le reflet de la réalité, car même le premier ministre l'a récemment reconnu devant la représentation nationale, tout en étalant quelques progrès vécus dans ce secteur. La grande question est celle de savoir jusqu'à quand l'intersyndicale ira avec ses seuls vicieux axés sur des discours et des recommandations stériles. Face à la politisation et la corruption qui rongent les secteurs du travail dans notre pays, l'intersyndicale devra passer à l'étape supérieure, qui est celle de créer une large mobilisation des travailleurs pour faire pression à l'État et obtenir gain de cause, comme cela est le cas sous d'autres cieux. Mais s'il faut attendre seulement les 1er mai pour monter au créneau, je pense que cette situation que vivent les travailleurs congolais ne va que perdurer et s'empirer davantage.
Réaction, M. Ndongala.
Oui, bon, le 1er mai, en fait, c'est une occasion où l'attention est focalisée sur les grandes préoccupations, les grandes revendications des travailleurs. Donc, l'intersyndical, comme la plupart d'organisations syndicales vous connaissez, n'attendent pas seulement cette occasion-là, non. Le travail, nous le faisons dans les consultations, dans les discussions, dans les échanges avec que ce soit les patronats, que ce soit le gouvernement. Nous le faisons régulièrement. Mais quand nous voyons que ça ne marche pas, à l'occasion du premier mai, en ce moment-là, on déballe. C'est qu'il ne va pas. Mais on ne va pas continuer à attendre. Et comme nous le disons toujours, nous, en syndicalistes, le plus important, c'est de connaître les problèmes, les analyser froidement et se mettre autour d'une table pour en discuter, trouver des solutions pour qu'on avance. C'est ça. Alors, si nous n'arrivons pas à ce stade-là, nous pouvons dire que tout ce que nous voulons, nous n'avancerons pas. Il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons soulever. Tout à l'heure, nous avons parlé des problèmes de rémunération. Mais la rémunération, c'est l'élément que devons, doit être lié à une politique fiscale qui permette à ce que non seulement le travailleur puisse contribuer à la vie de la nation en payant ses impôts, mais qui permette aussi à ce que ses revenus qu'il reçoit ne soient pas totalement laminés par les impôts. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous devons discuter en nous mettant autour d'une table. Ce n'est pas une personne ou une seule institution seule qui va trouver la solution. Ça, c'est fini. L'époque où la voix unique, le sens unique, cette époque-là, ce n'est plus possible maintenant. Aujourd'hui, on doit se retrouver pour débattre de grandes questions, trouver les solutions d'ensemble et avancer. Alors, tant qu'on arrive à ce stade-là, c'est pas la peine.
Alors, il y a Pépé Lissungi qui nous écrit aussi de Kisangani qui dit je trouve cette déclaration qui revient chaque 1er mai de trop. Tant que les structures syndicales des travailleurs resteront politisées, toutes ces déclarations resteront distractives.
Non. Dire que les structures syndicales sont politisées, non. Ça, c'est mal comprendre la réalité syndicale. Je m'excuse de le dire. Les organisations syndicales ont pour mission essentielle de défendre, protéger et promouvoir les droits de leurs membres. qui sont les travailleurs. Et aujourd'hui, quand nous parlons de travailleurs, ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans les magasins, dans les entreprises, à Sukimo, je ne sais pas. Non, il n'y a pas que ceux qui sont dans le secteur structuré. Nous devons prendre en compte aussi ceux qui sont dans l'économie informelle. Nous devons prendre en compte ceux qui sont dans le monde rural. Donc, quand nous avons tous ces problèmes-là, c'est ce que nous devons mener devant pour que, ces travailleurs-là, ces travailleuses-là, trouvent leur compte et voient leurs conditions de vie s'améliorer au fur et à mesure que les jours, les semaines, les années passent. Donc, ce n'est pas une question de politisation. Non. Nous sommes obligés d'agir sur le terrain politique, non pas en tant que politicien, mais pour faire entendre la voix du travailleur par rapport aux responsables politiques qui sont obligés d'en tenir compte dans la prise de position dans leur politique. C'est ça. Donc il n'y a pas une question de politisation, c'est-à-dire qu'on se met sous la coupe des organisations politiques. Non. S'il y a des syndicats qui le sont, ça, c'est leur manière de se comporter, mais ça, c'est pas syndical. Sur le plan syndical, nous, notre problème, c'est défendre les intérêts de nos membres où qu'ils se trouvent.
Merci.
Quel que soit le secteur dans lequel ils opèrent.
Merci, M. Ndongala. M. Magari Bileani, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
C'est Alain Bolotia depuis Kinshasa. La problématique du travail en République démocratique du Congo exige une analyse plus approfondie qu'une simple constatation. Il faudrait reconnaître que la prestation des travailleurs congolais est marginale au regard de la situation que traverse le pays après 56 ans d'indépendance. Bien que la motivation n'a toujours pas été au rendez-vous, il faudrait du moins reconnaître que dans la plupart des cas, ceux qui travaillent pour le compte de l'État sont plongés dans la routine et cela n'a pas permis aux structures étatiques de faire preuve de compétitivité et d'une capacité génératrice d'emploi. Le système du travail du pays est caractérisé d'un dysfonctionnement du fait que les règles de l'équilibre entre les inputs et les outputs n'est toujours pas respectée.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, merci beaucoup. En fait, quand il parle d'une analyse approfondie, elle doit partir en fait des éléments qui sont observables par tout le monde. C'est-à-dire, ici, nous sommes en train de parler à une opinion nationale qui nous écoute, qui n'a pas la même capacité d'analyse que certaines personnes, évidemment. Et donc, lorsque nous donnons un message aux gens, ça doit être un message très clair, précis, qui leur permet en fait de comprendre de quoi on parle. Quand il dit que les gens sont dans la routine, en fait, quelqu'un qui, je ne sais pas, ouvrira Massima Nimba dans les Popokabar, il dit, mais ça veut dire quoi? C'est tout simplement pour dire que il est vrai qu'aujourd'hui, les travailleurs congolais, surtout dans l'administration publique, il n'est pas lié par l'obligation des résultats. Il vient au travail à 8 heures et à 15 heures, lui ne regarde que la montre. Il ne regarde pas le résultat. Eh bien, pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait le travail qui correspond à une rémunération égale et adéquate. Lorsque quelqu'un vient au travail, il doit être tenu par l'obligation de résultat. Et donc, étant tenu par l'obligation de résultat, vous devez le mettre dans des conditions qui lui permettent d'atteindre ce résultat. Notamment les ressources du travail, notamment les instructions et d'autres choses en fait qui corroborent avec l'emploi qu'il est en train d'occuper. Mais quand on regarde aujourd'hui la manière dont le recrutement se fait. J'apprécie d'ailleurs déjà que l'une des recommandations de l'intersyndicale lors de la célébration de la Journée internationale du travail était en rapport avec les contrôles qui doivent se faire dans l'administration publique à ce qui concerne les agents qui n'ont pas qualité des positions qu'ils occupent. Donc, avec le tribalisme, avec le clientélisme qui se fait aujourd'hui, mais c'est tout le monde qui occupe des hautes fonctions, des directions. Mais il n'a pas le leadership professionnel pour pouvoir et guider le travail et conduire ses collaborateurs à des résultats. Ça, c'est un constat. Et quand il parle, par exemple...
Certaines personnes parlent aussi des politisations même.
Mais bien sûr, madame, vous savez très bien que l'administration publique, en Afrique d'abord et au Congo en particulier, n'est plus la question de l'expertise. C'est devenu une question de la politique. Vous n'avez l'emploi que parce que vous appartenez à une obédience politique. Ça ne se fait pas. Le simple exemple, c'est la Belgique. Elle a connu 2 ans sans gouvernement. Mais vous n'avez pas senti qu'il y avait absence de l'administration publique. Quand vous arrivez à Zaventem, vous rendez bel et bien compte que l'administration est là, elle est solide. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement dissociée de la politique politicienne. Où, pour prendre une action dans le cadre de pouvoir répondre aux préoccupations des usagers, c'est-à-dire nos compatriotes qui ont droit au service public, il faut toujours qu'il y ait des instructions qui viennent d'en haut pour pouvoir faire quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation sociale de travailleurs en RDC?
Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait de la responsabilité publique accrue, que les travailleurs connaissent mieux leurs droits. Mais madame, avant cela, laisse-moi tout simplement faire un petit saut sur ce que l'intersyndicale a demandé.
Il y a eu
le problème de bas salaire. C'est vrai, les salaires sont une signification indécente. Ils ne répondent pas complètement aux conditions ou aux aspirations des travailleurs. La scolarité des enfants, les soins médicaux, toutes ces répliques ne sont pas. Parce que vous avez la paie à la banque, c'est en un bloc. Vous avez le problème de sous-traitance aujourd'hui. Mais ça, c'est complètement l'exploitation de l'homme, madame. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes engagé par sous-traitance, vous n'avez aucune relation avec votre employeur. Et puis, vous n'avez même pas le dialogue social. Parce que le professeur a évoqué un des éléments du travail décent, c'est le dialogue social. Le fait que vous avez été engagé par sous-traitance, ça veut dire que vous n'avez aucune réclamation légale à adresser à votre employeur. Parce que quand vous vous adressez à lui, il vous dit, monsieur, c'est pas moi qui vous avez engagé, il faut poser la question à votre sous-traitant. Donc vous vous rendez compte que l'homme est exploité. Il y a aussi le problème du travail journalier. C'est long de la loi.
Pour deux emplois pourtant permanents.
Évidemment, il y a une loi claire à ce qui concerne le travail journalier, madame. Une personne ne peut pas travailler au-delà de 15 jours. Et qu'on considère son travail comme étant journalier, ça ne se fait jamais. Directement, il doit avoir droit à un contrat du travail déterminé ou indéterminé, selon le cas. Mais aujourd'hui, dans ces pays, surtout les expatriés qui ont les étrangers qui sont en train de travailler ici, franchement, surtout les Indo-Pakistanais,
ils ne respectent pas tout ça.
Les Arabes, franchement, ils sont en train de fouler les pieds de la dignité du peuple congolais. Et moi, je demande au gouvernement...
Le gouvernement ne fait rien pour protéger les Congolais.
Parce que la corruption est à un haut niveau. Ces gens ne bénéficient pas de ces critères de dialogue social. Ils n'ont rien à adresser à ces gens. Voilà. Donc, c'est complètement une exploitation. Je demande simplement au gouvernement de pouvoir prendre la responsabilité de sécuriser ses concitoyens face aux employeurs.
Merci, M. Magari. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Professeur Joseph Mazambi, nous restons moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Comment améliorer la situation des travailleurs en RDC rapidement?
Je pense, madame, que pour améliorer la situation des travailleurs, il faut améliorer les indicateurs du travail décent. Et la plupart de ces indicateurs ont lien avec le pouvoir économique de chaque État. Et quand vous prenez notre pays, on dit que la pauvreté absolue, c'est en dessous de 1 à 2 dollars. Quand vous prenez les pays développés, c'est 14,40 dollars. Donc, quand vous êtes en dessous de 14,40 dollars par jour, par personne, on dit que vous êtes sous le seuil de la pauvreté. En Belgique, en France, ainsi de suite. Mais dans notre pays, on parle de 1 à 2 dollars. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Pour qu'on améliore les conditions de travail, il faut que l'État puisse avoir beaucoup de moyens pour investir. Il faut que les employeurs aient aussi beaucoup de moyens. Il y a deux des auditeurs qui ont dit tout à l'heure que le problème était profond. Le président de la République, lorsqu'il a parlé de l'état de la nation devant les deux chambres, il a évoqué le problème, madame. Il a dit que pour garantir une croissance économique significative et durable, l'émergence d'un entrepreneuriat national et compétitif international, il est impératif que notre système d'enseignement supérieur et universitaire permette à nos jeunes d'acquérir des savoirs et des compétences, des aptitudes susceptibles d'aider à réduire la fracture entre la formation et l'emploi.
Merci, professeur. Monsieur Ndongala, votre conclusion.
Bon, nous, en syndicalistes, on voit les choses d'une manière très simple. Il nous faut au départ des politiques qui doivent être pilotées par l'État, qui est responsable en toute situation. Toutes les politiques doivent être concernées, tout le monde, et qu'il faut que tous ceux qui ont quelque chose à dire entrent dedans de manière que ce qui sera adopté soit adopté en commun et qu'on puisse l'appliquer en commun. En dehors de tout cela, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous allons continuer à flotter et il n'y aura pas de progrès possible.
Merci, monsieur. Donc, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Au micro, Kelly Nkouté. Merci à Sylvain Matundu qui est à la prise de son. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.